culte espoir. Une heure de culte hebdomadaire préparée par Amandine, Marina, Mildred et leur équipe.
Bonjour à toutes et à tous, il est bon de pouvoir vous retrouver aujourd'hui, te retrouver pour notre culte espoir. J'espère que ta semaine s'est bien passée et que tu as pu vivre comme nous l'avions proposé la semaine passée, un moment waouh, un temps où tu as pu te poser pour admirer cette belle nature, les couleurs de l'automne, admirer en un waouh, combien c'est beau ce que Dieu fait. Nous avons au studio aujourd'hui Amandine et Brion. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour Marina.
Merci de partager ce temps avec moi. Et nous accueillons aussi Jérémy Dunon. Bonjour Jérémy.
Bonjour.
Merci de te joindre à nous aujourd'hui pour un temps de partage que nous allons avoir dans un instant. Quel thème vas-tu nous proposer ?
Il s'agit d'une rencontre d'un homme avec Jésus qui, évidemment, avait des complexes. Et ces complexes le rendaient imbuvable aux yeux des autres. Mais grâce à sa rencontre avec le Christ, il a réalisé qu'il avait plus de valeur qu'il ne pensait, et également les autres.
Mmh. Est-ce que sa vie a changé ?
Complètement.
Mmh. On attend avec impatience ce moment. Mmh. Amandine, on cherche à partager des pistes dans notre quotidien avec Dieu, des idées concrètes. Qu'est-ce que tu peux nous partager de comment tu vis Dieu dans ta semaine ?
Alors en ce moment, presque tous les matins, au réveil, pendant à peu près une dizaine de minutes, j'aime bien prendre un temps pour lire la Bible et puis pour prier. C'est ma manière de commencer la journée en prenant du temps avec Dieu. Ça m'arrive aussi, ou ça m'est arrivé, de le faire plutôt le soir, juste avant d'aller me coucher, pour conclure ma journée avec Dieu. Souvent, je demande à Dieu qu'il m'aide à ce que la lecture que je viens de faire puisse faire son chemin dans mon cœur, dans mon cerveau, qu'il m'aide à comprendre ce que j'ai lu et à voir comment ce texte biblique peut me parler à moi aujourd'hui dans mon quotidien. Parfois, je trouve pas forcément évident de savoir quoi lire. C'est pas toujours évident de savoir en quoi le texte que je viens de lire aussi me concerne. Et c'est pas toujours évident non plus de prendre ce temps-là. J'en parlais avec des amis l'autre jour qui, eux, ont décidé de mettre une application sur leur téléphone pour les aider à vivre ces temps-là avec Dieu. Et je trouve cette appli top, donc du coup, j'ai fait comme eux, je les ai copiés, j'ai mis l'appli sur mon téléphone. Elle s'appelle la Bible App YouVersion. C'est une application gratuite qui donne des outils pour nous encourager et nous aider à aller tous les jours à la rencontre de Dieu. On peut y lire la Bible dans diverses versions, donc il y a la français courant, etc., d'autres types de versions. On peut écouter la Bible en audio, donc du coup c'est ce que je fais des fois, je la mets dans la voiture ou quand je cuisine pour pouvoir écouter en ayant les mains libres et les yeux libres. On y trouve le verset du jour, souvent c'est un verset encourageant, qui est inspirant, qui du coup nous accompagne pendant la journée. On y trouve aussi des plans de lecture de la Bible sur différents thèmes concrets, donc par exemple sur l'amour, le travail, le pardon, les dépendances, la souffrance, la sagesse, l'adoration. On y trouve des prières aussi, et puis on peut la noter la Bible, on peut la surligner, la commenter, mettre des favoris pour retrouver les versets qui nous ont particulièrement touchés. On peut partager sur l'appli avec des autres chrétiens, avec des amis. Par exemple, ma belle-mère, qui vit à Madagascar, aime bien me partager via WhatsApp des petits versets illustrés qu'elle a trouvés sur l'appli. Et du coup, elle m'envoie ça pour m'encourager, me souhaiter une bonne journée. Bref, j'ai découvert à quel point la Bible est un trésor. Et c'est ce trésor que je t'invite à aller découvrir également. Il ne s'agit pas forcément d'aller faire de longues études de textes, hein. Il ne s'agit pas d'être un grand littéraire. La Bible, c'est une bibliothèque composée de livres qui, de manière incroyable, ont beau été écrits il y a très 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 longtemps, elle nous parle encore aujourd'hui des vérités pour nos vies. Et si tu ne sais pas par où commencer, tu peux utiliser l'application La Bible YouVersion dont je viens de te parler, ou tu peux prendre une Bible et commencer par lire les évangiles. C'est les premiers livres du Nouveau Testament, il y a Matthieu, Marc, Luc ou Jean. Et ces livres, ils nous parlent de Jésus. Alors, bonne lecture et belle découverte.
Merci Amandine pour ces conseils. Je te rejoins sur cette application, elle m'est aussi très utile. En effet, la Bible renferme une multitude de textes et notamment des promesses pour notre vie. Et je veux t'en partager une que tu trouveras dans le livre des Psaumes au chapitre 84, versets 4 à 7. Tu peux prendre ta Bible ou ton application. Tu l'ouvres, si tu prends une Bible physique, tu peux l'ouvrir dans son milieu et tu tombes quasiment sur le livre des Psaumes. Et on va lire donc le Psaume 84, versets 4 à 7. Seigneur de l'univers, mon roi et mon Dieu, même le petit oiseau trouve un abri près de tes autels et l'hirondelle peut faire un nid où mettre ses petits. Ils sont heureux ceux qui habitent ta maison, sans cesse ils peuvent chanter ta louange. Ils sont heureux ceux qui trouvent leur force en toi, ceux qui partent vers toi de bon cœur. Quand ils passent par une vallée très sèche, Dieu la change en oasis, et les premières pluies la couvrent de bénédictions. Amen. Que Dieu change dès aujourd'hui ta terre sèche en oasis.
Amen. Oui, le texte que tu viens de partager avec nous, Marina, mentionne la joie que l'on peut trouver en Dieu malgré les difficultés de la vie. Il m'est arrivé tellement de fois de me tourner vers Dieu et de sentir du coup son Saint-Esprit me remplir de joie alors que ce n'était pas forcément une particulièrement bonne journée, tellement que j'étais chez moi et j'avais envie de chanter, j'avais envie de danser dans mon salon, de louer Dieu tout mon cœur. Et c'est ce que le chant que l'on va écouter maintenant nous invite à vivre. Il dit « Louez-le, qui que vous soyez, louez-le par des pas de danse, louez-le en toutes circonstances, et bien qu'il te procure cette joie. » On écoute.
Accompli et nous vivons de l'esprit. Qu'éclatent toutes les nations, le réveil d'une génération. Nous danserons car tout est accompli et nous crions Jésus-Christ. Accompli et nous vivons de l'esprit. s'appelle, qu'elle jubile. Au cœur des mers, toutes les îles. Courons ensemble, car tout est accompli. Et nous crions Jésus-Christ. Louez-le, louez-le, qui que vous soyez. Louez-le, louez-le, où que vous soyez. Louez-le, louez-le, en toutes circonstances. Louez-le, louez-le, voici que Dieu avance. Chrétiens d'Orient et d'Occident, unis autour du Dieu vivant, en Jésus-Christ, car tout est accompli et nous vivons de l'Esprit. Et qu'aux quatre coins de la France s'élève un chant, naisse une danse pour le Messie, car tout est accompli et nous crions Jésus-Christ.
Continue dans la joie avec un autre chant chrétien connu et remasterisé par Sébastien Demeret, qui parle de cette relation si spéciale que Jésus t'invite à vivre. C'est un grand Dieu puissant qui se fait homme pour venir à ta rencontre et qui te propose de tisser un lien d'amitié fidèle et exigeant.
Oh, quel ami fidèle et tendre. Nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévère en ses exigences, il est riche en son amour. Oh 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 oh. Oh, quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre, à vaincre en comptant sur lui. S'il nous voit vrais et sincères, à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Oh, oh, oh. nous avons Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours, car bientôt nous aurons la joie, yeah, de vivre avec lui toujours.
Pour terminer ce moment, j'aimerais te proposer le témoignage chanté de André Grise. Elle parle de sa relation justement si spéciale avec Jésus. Une relation que toi et moi, si nous le décidons, pouvons aussi avoir.
Bien plus qu'un ami, ses paroles sont pour lui. Merci, toi qui remplis ma vie. J'ai choisi de croire en lui. Je ne le vois pas, mais je sais qu'il existe. Où que je sois, dans ses mains il tient ma vie.
Lord, I thank you. Lord, I thank you. Lord,
je vous dis que je ne suis plus la même. Son souffle, il a touché mon âme, et les braises qui s'étaient figées un beau jour se sont envolées. Je ne le vois pas, mais je sais qu'il existe. Où que je sois, dans ses mains il tient ma vie.
Lord, I thank you. Lord, Lord, I thank you. Lord.
Et j'ai longtemps laissé la place à des choses qui ne t'évoquaient pas. Mais désormais, je veux te rendre grâce. Si ma vie a changé, c'est grâce à toi. Je ne te vois pas, mais pour moi tu existes. Où que je sois, dans tes mains tu tiens ma vie. Je ne te vois pas, pour moi tu existes, et où que je sois, c'est ton esprit qui m'anime.
Lord, I thank you. Lord, I thank you. Lord,
merci Seigneur,
Lord,
de tout ce que tu fais.
comme un ami. Et j'aimerais te parler de quelqu'un qui parle de Dieu comme d'un ami. C'est Alain Auderset. Et j'aimerais d'ailleurs te partager un bout de son histoire, une histoire vraie, tirée de son livre « Rendez-vous dans la forêt ». Alain Auderset est un Suisse né en 1968. Il est dessinateur de BD depuis plus de 20 ans, guitariste, marié, père de 4 enfants. Il se produit régulièrement sur scène dans un one-man show. Et il est aussi écrivain. Ce livre, Rendez-vous dans la forêt, retrace quelques anecdotes de sa vie avec Dieu. Et oui, parce qu'il a pris l'habitude, tous les jours, de se rendre dans la forêt près de sa maison pour passer un temps particulier avec Dieu, pour le rencontrer. Et il se passe toujours quelque chose dans cette forêt. Alors laisse-moi te lire le chapitre qui a pour titre « La maison ». Le messager.
Un jour, cette maison sera tienne.
Telles sont les paroles de Luc, mon ami pasteur, en me désignant l'étrange bâtiment devant moi. Et voyons, Luc, réfléchis. Je suis beaucoup trop pauvre pour me l'acheter. Avec ma famille, nous vivons en dessous du minimum vital. Franchement, comment peux-tu imaginer un truc pareil ? Il ne dit rien, mais a ce petit sourire agaçant qu'ont ceux qui savent quelque chose que tu ignores. Le retour discret. Les années ont passé et aujourd'hui, l'air de rien, Luc m'annonce.
Ça y est, la maison est à vendre.
Ce même sourire qui lui tord la bouche obstrue ainsi la suite de sa réflexion, mais celle-ci étant plus forte que lui, s'échappe par son regard et me dit.
Alors, tu vas l'acheter ?
Ah, Luc, tu le sais comme moi, ma situation financière n'a pas changé et je...
Hein, mais de quoi tu parles ? Je ne dis rien, moi, je n'ai rien.
Il a cet air détaché qu'ont les coupables, qui veulent passer pour innocents en sifflotant un air banal. Pourquoi je n'arrive pas à avoir des amis normaux, moi ? Le détour distrait. Le lendemain matin, comme à mon habitude, je planifie d'aller en forêt. Mais ce tordu de chemin n'en fait qu'à sa tête, et à cause de lui, je suis nez à nez avec le bâtiment en question. Et maintenant, ce sont mes pensées qui, à mon insu, brodent tout un tricot de fantasmes. C'est vrai que ce serait l'idéal, mon atelier en bas, ma famille juste au-dessus, cool. Paf. La réalité qui, comme chacun le sait, ne nourrit qu'aversion pour la broderie, me gifle de sa logique implacable et me sort de mes rêveries. Tu n'as pas un rond, ok ? Le lendemain, rebelote, le chemin, profitant de mon absence, je suis souvent dans la lune, me dépose pile poil au même endroit. Mais c'est malin. Bon Seigneur, mettons les choses au clair. Dans ce monde-ci, ça marche pas comme ça. Il faut de l'argent pour acquérir un bâtiment, tu comprends ? Je devine alors qu'il a le même sourire de connivence que Luc. Ces deux-là me cachent quelque chose. Je ne me fais pas d'illusions. Luc, le chemin, Jésus vont user de complicité pour que chaque jour, moi et mon justicier distributeur de baf réalité, nous nous retrouvions sur ce même point de départ. Alors, affrontons le problème. Le banquier. Comment qu'on fait pour acheter une maison ? Instinctivement, je glisse en direction de la banque. Les médias locaux parlent souvent de moi, si bien que le banquier me reconnaît tout de suite. Au ton de sa voix, j'ai l'impression qu'il est convaincu que j'ai dû venir en limousine et que mon chauffeur m'attend dehors. Je lui lance « Bonjour, j'aimerais acheter une maison. Vous me prêteriez l'argent ?» Il me tend une feuille avec entrain.
« Mais certainement, monsieur Auderset. Veuillez indiquer votre salaire mensuel sur ce document, une simple formalité. »
Mon salaire mensuel, ben, ça dépend des mois, la vie d'artiste, quoi. Ah là 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 là, j'y comprends rien en comptabilité, moi. Heureusement, j'ai un pote sorcier qui m'aide à remplir la feuille. Bah, sorcier, comptable, c'est du pareil au même. Le vrai banquier. Les chiffres que découvre le banquier ont effacé son sourire bienveillant jusque-là en tout point semblable à celui de la publicité de l'entreprise.
Ça ne va pas être possible. Pour qu'on vous prête de l'argent, il faut déjà que vous en ayez.
Purée, j'y comprends rien, moi, à leur logique, à cette clique. Leur cravate trop serrée doit empêcher le sang de monter au cerveau. Penaud, face à la maison, j'explique à Dieu deux ou trois trucs qu'il n'a pas dû bien comprendre sur le fonctionnement de l'administration de notre bas-monde, avant de m'en éloigner avec lui, dans la forêt. Quelques jours plus tard, je reçois l'étrange visite d'un couple âgé qui m'explique qu'ils avaient en projet d'investir dans la bourse, un truc d'adulte quoi, mais qu'après avoir réfléchi, ils ont trouvé plus judicieux d'investir dans le royaume de Dieu. Il se trouve que le hasard d'une discussion avec l'un de mes amis les a conduits vers moi. Bref, ils m'ont prêté 100 000 francs en me disant
« Tu as 40 ans pour nous les rendre. »
Je retourne à la banque, mais cette fois, je ne passe pas par le guichet. Je vais directement frapper à la porte du directeur. Finalement, quand je prie, c'est aussi ce que je fais. Je m'adresse directement à Dieu et pas à un intérimaire. Et il me dit oui pour me prêter le reste. J'habite aujourd'hui cette maison avec ma petite famille. De la créativité et de la bonne humeur en débordent de partout. En creusant dans la cave, j'ai découvert un panneau « Église évangélique ». Ceux qui posèrent les premières pierres de ce bâtiment dans les années 1800 avaient le projet d'en faire une église, un lieu de culte et de chaleur humaine. Tous les propriétaires qu'il y a eu depuis sa fondation, chaque fois, étaient des serviteurs de Dieu. J'ai conservé l'intérieur tel quel, transformant la chaire, le truc à prêcher, en table à dessin, et les grandes fenêtres en arrosoirs de lumière. Les plantes exotiques, tout comme les dessins, ont envahi tous les murs. Loué soit le roi des rois, le banquier des banquiers. Ces sentiers sont étonnants pour ses serviteurs les plus simples, qui se laissent diriger par lui. Il a compassion d'eux et les bénit en son temps. Dans ses premiers temps, rien à voir, mais bon, Willy Grunch, mon personnage BD, gagne le premier prix de la BD chrétienne d'Angoulême. Un prophète qui passe par là m'annonce
« Va, je t'enverrai au loin vers les nations. »
Et boum ! Les jours qui suivent, je suis invité pour la première fois à parler en Espagne et aux États-Unis. Voilà ce que Dieu peut faire aujourd'hui encore, si tu l'invites à agir dans ta vie. Alain Oudercet a fait le choix d'inclure Dieu dans son quotidien, de le laisser intervenir dans ses rêves de vie, dans ses choix. Et toi, veux-tu laisser une place à Dieu dans ta vie? Oseras-tu le laisser te surprendre? Si tu le choisis, il fera certainement des miracles dans ta vie.
Eh bien, Jérémy va nous parler justement d'un miracle qu'il a fait dans la vie d'un homme. Cette histoire se trouve dans Luc, chapitre 19, versets 1 à 10. Jésus entre dans Jéricho et il traverse la ville. Là, il y a un homme appelé Zachée. C'est le chef des employés des impôts. Il est riche. Il cherche à voir qui est Jésus, mais il ne le peut pas. En effet, il y a beaucoup de monde et Zachée est petit. Il court devant et il monte sur un arbre pour voir Jésus qui va passer par là. Quand Jésus arrive à cet endroit, il lève les yeux et il dit à Zachée « Zachée, descends vite, aujourd'hui je dois m'arrêter chez toi. » Alors Zachée descend vite et il reçoit Jésus avec joie. Tous ceux qui voient cela critiquent Jésus et disent « Voilà que Jésus s'arrête chez un pécheur !» Mais Zachée, debout, dit au Seigneur « Écoute Seigneur, je vais donner la moitié de mes richesses aux pauvres, et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Alors Jésus lui dit « Aujourd'hui, Dieu a sauvé les gens de cette maison. Oui, Zachée aussi est de la famille d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. »
Chers amis, chers auditeurs, juste avant l'histoire que nous venons de lire, se trouve la rencontre déjà de Jésus avec un homme riche. À la fin de cette rencontre, Jésus, voyant s'éloigner ce jeune homme riche qui refusait de partager le produit de la vente de ses biens avec les pauvres pour suivre Jésus, va faire cette terrible déclaration. Il sera plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Peut-être que cette déclaration n'est pas surprenante pour nous aujourd'hui. Mais il faut à tout prix éviter de calquer notre réalité sociale d'aujourd'hui sur un texte qui a des millénaires. Il faut savoir qu'à l'époque, être riche était d'abord un signe de bénédiction de la part de Dieu. À l'inverse, être pauvre était un signe de malédiction. Les pharisiens auraient pu ajouter « La faute de qui est-ce la pauvreté ? De lui, d'elle ou de ses parents ?» C'est pourquoi on ne sait pas comment le jeune homme a acquis sa richesse, quelle en est l'origine, juste ou injuste. Cependant, dès le début du texte qui nous intéresse, en soulignant que Zachée était riche par le moyen de l'impôt démesuré et de la confiscation, l'auteur de l'évangile de Luc nous prépare à un récit qui va répondre à une question. Celui qui amasse des richesses injustes, démesurées, peut-il entrer dans le royaume des cieux ? Peut-on être sauvé de son désir ou besoin d'accaparer pour soi l'équivalent de la production de richesses d'une ville entière, voire d'un pays pour certains? Je me réjouis de connaître la réponse, pas vous? Chez Luc, qui nous présente le ministère de Jésus sur terre, il y a deux réalités qui s'interpénètrent auxquelles Jésus, dans sa mission de prophète et de sauveur, va s'attaquer. La pauvreté et la richesse. Les prophètes de l'Ancien Testament n'ont pas cessé de dénoncer les injustices sociales qui poussent le peuple dans la précarité et sapent leur confiance en la providence divine. En tête de liste des actions de Jésus, il y a donc les pauvres auxquels la bonne nouvelle est apportée, chapitre 4, verset 18. Chapitre 6, verset 20, il nomme les pauvres les affamés et les persécutés. Au chapitre 14, verset 13, on doit inviter les pauvres au banquet du maître. Incroyable retournement de situation. Ainsi, ici-bas, pour sauver un pauvre de sa condition de lésé, il faut convaincre l'accapareur de redistribuer ce qu'il a injustement amassé. Les disciples, qui n'étaient pas riches en argent, se demandent, comme tous les gens de leur époque, en entendant Jésus, « Mais qui peut être sauvé si les riches ne le peuvent pas ?» Chers amis, ne nous voilons pas la face. Toute possession est un lien. Un lien quelquefois structurant. Cependant, la boulimie d'accumulation, d'accaparement, est un lien aliénant qui conduit ceux qui sont esclaves de ces richesses à s'agripper à leur possession. Ceci leur donne l'illusion d'une fausse sécurité et constitue pour eux un précieux trésor. C'est pourquoi Jésus avait prévenu plus tôt les pauvres qui l'écoutaient sur la montagne et qui pensaient à devenir ses disciples. Ne vous y trompez pas. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. J'ai le souvenir d'un homme âgé que j'ai accompagné à l'hôpital. Il souhaitait de manière surprenante, faire don de tous ses biens. Il me parlait de grandes richesses et il semblait éprouver de la culpabilité face à ces richesses qu'il avait accumulées. Je me suis permis de lui rappeler qu'il avait le temps d'y réfléchir, car il allait bientôt sortir de l'hôpital et peut-être tout cela pouvait encore lui servir. Mais il m'a répondu « Vous savez, monsieur le pasteur, j'ai accumulé tout ce qui me plaisait au cours de ma vie sans vraiment jamais rien offrir. En discutant avec vous, à mon âge, je réalise que je n'ai plus d'amis encore vivants. Je n'ai pas eu de compagne ni de descendants. Aujourd'hui, je sais que la seule chose qui va rester de moi, c'est ce que j'aurais accepté de donner. Acceptez-vous donc de me guider dans mon chemin vers Dieu. » Pour encore un peu de temps, Zachée a tout ce qu'un homme de l'époque peut rêver. De l'argent, du pouvoir, et en plus, il inspire la crainte. Ce qui lui manque, des centimètres. C'est un homme de petite taille, mais il le compense en prenant de la hauteur. Zachée sait comment s'élever au-dessus de sa condition afin de dominer les autres. C'est un homme de chiffres, il sait calculer. Rappelons-nous, il est le chef des inspecteurs d'impôts de sa province. Il sait compter, et à Jéricho, c'est quelqu'un qui compte. Ses calculs sont toujours justes. Le juste, c'est la signification de son nom, Zachée. Il calcule donc qu'avec sa petite taille et sa réputation de tricheur, il ne pourra pas se faufiler à travers les curieux pour apercevoir le roi de justice qu'est Jésus. Seule solution pour lui, s'élever au-dessus des curieux. En grimpant un bout sur le plus grand arbre de la place, un sycomore. Arbre réputé indéracinable, comme la réputation. Il calcule qu'en attendant un peu, il verra lui aussi qui est ce prophète qui vient jusque dans sa ville, dans son quartier, pour parler à ses administrés. Zachée calcule que toute la ville de Jéricho veut voir Jésus. Peut-être sont-ils aussi spectateurs que Zachée, sauf que lui pense qu'il regardera ce Jésus qui passe, comme d'habitude, sur les branches de son repère solide et sûr, c'est-à-dire de haut. Mais pour Jésus, ce qui importe, c'est que tout ce qui va se passer ce jour-là le sera sous le signe visuel d'une ville entière. Et pour une fois, mauvais calcul pour Zachée. Lui qui voulait prendre de vitesse le Christ et prendre de hauteur ses concitoyens, c'est Jésus qui le premier le surprend en cherchant son regard, en levant les yeux vers lui et en l'invitant à retrouver sa véritable hauteur face à ses contemporains, victimes de sa boulimie de thésaurisation. Zachée descend. Mais Jésus ajoute aux yeux de toute une ville de témoins, sachez ce Zachée-là, au pied de son sycomore, autrement dit, son baobab, sa montagne, son Everest, la somme de ses impossibles, de ses déterminismes, lui qui, petit voleur, tricheur, mais également curieux de me connaître et de me rencontrer, c'est chez lui que je veux entrer et même demeurer s'il y consent. D'un coup d'un seul, parce que Jésus l'a vu dans sa vérité, sans pour autant le condamner, que le regard de Zachée change sur lui-même. Il devient lucide sur ses mauvais comptes et ses calculs malhonnêtes. Jésus ne lui reproche rien. Il s'invite chez lui. Mais Zachée, honoré de cette reconnaissance, sans condition préalable, reconnaît tout. Je donne la moitié de mon trésor à ceux qui manquent de tout. Brusquement, il voit ses invisibles pour lui jusqu'alors. Et puis, l'autre moitié de mes biens, je la réserve au remboursement des dettes et des indemnités dues à ceux envers qui j'ai des dettes morales, financières, éthiques, juridiques. Quelle lucidité retrouver! Jésus a touché le cœur de Zachée en s'adressant à lui comme à un grand homme. Et d'un coup, celui-ci a épousé la réelle mission auquel son nom le prédestinait. Zachée, le juste. Dans le judaïsme, un nom, c'est un programme. Zachée, le voleur, n'était qu'un juste à la dérive, perdu, égaré, tâtonnant, dans le brouillard de ses désirs infantiles. Un ami psychiatre me disait que le rêve de toute puissance, amour, richesse, gloire, beauté, grandeur, est un rêve infantile. Et quand je ne m'aime pas, ajoutait-il, je suis toujours trop petit, trop laid, trop complexé. Le regard de l'autre est toujours terrible à supporter lorsque je me déteste. Pour dépasser ces complexes, on a besoin de la bienveillance des autres. Et c'est cette bienveillance, malgré tout, que Jésus offre à chacun, sans condition. En passant ce jour-là sous l'arbre de Zachée, Jésus a mis en œuvre cette parole. Il ne suffit pas de croire en soi, il faut que d'autres croient en vous pour vous permettre de grandir. Zachée est brusquement aux yeux de tous devenu grand. La foi, c'est d'abord celle de Dieu en l'être humain. Ses paroles aux hommes sont d'abord des déclarations de confiance. Lève-toi, lève-toi. Prends ton lit, marche, va, quitte ton pays, tes proches, la maison de ton père, et va là où je te montrerai. Ne crains pas. Paix, mes brebis. Allez vers toutes les nations pour en faire des disciples, etc., etc. Aujourd'hui, à nous tous qui pourrions peut-être chercher une fausse sécurité, une affection détournée, dans toutes ces choses qui nous possèdent, mais qui finalement nous retiennent ici-bas, loin du Christ et de nos semblables, Jésus redit « Avant de vous égarer, amassez-vous des trésors dans le ciel. » Où la teigne et la rouille ne détruisent point, où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car où se trouve ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'épisode de rencontre du Christ avec Zachée se termine par la sentence désormais culte. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. En réalité, l'action de Jésus venu homme dans ce monde, dépouillé de ses attributs divins, vise bien à transformer des cœurs déjà perdus pour la science, perdus pour la vie, perdus pour l'amour. Le Fils de l'homme est précisément en mission exceptionnelle qui vise à faire passer les chameaux de ce monde par le trou de l'aiguille qu'est la porte de son royaume. De permettre aux Zachées, petits et grands, d'être libérés de leur fausse sécurité. Ainsi, comme Jésus le dira aux disciples de Jean, « Allez, rapportez à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Car plusieurs, pourrions-nous ajouter comme Zachée, ont accepté de rendre ce qu'ils avaient accaparé. Zachée est descendu, car toutes ses batailles sont gagnées. grâce à sa rencontre avec le Christ, il sort grandi. Il voit à nouveau ses invisibles qu'il ne souhaite plus exploiter, mais au contraire élever. Et tous le voient sous un jour nouveau. Et oui, l'homme a des limites, des impossibles, mais à Dieu,
tout est possible.
Car, encore une fois, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver même celui qui se croyait déjà perdu.
Amen. Amen.
La seule chose qui va rester de moi, c'est ce que j'aurais accepté de donner. Merci Jérémy pour ce temps de partage. Dans ce temps de louange dans les arts, j'aimerais te partager un chant très récent qui s'appelle « J'essayerai encore ». Il est sorti le 10 septembre et est né d'une collaboration entre deux hommes, Sébastien Korn et Samuel Olivier. Alors Sébastien Korn est un pasteur, leader du groupe Impact, directeur artistique de l'église La Chapelle au Canada. C'est une église qui vient de créer en 2020 d'ailleurs La Chapelle Musique, qui se veut un espace créatif, artistique, musical, et notamment un studio de production. Vous connaissez peut-être quelques chants de Sébastien Korn qui sont connus comme « Mon secours est en toi » ou encore « Infiniment grand ». Des chants maintenant connus. Et puis Samuel Olivier, un auteur-compositeur, musicien-interprète parisien, notamment leader du groupe collectif Cieux Ouverts. Pour la petite histoire, Sébastien Korn avait un ami proche, Lucas Lafont-Rivard, avec lequel il avait envisagé de composer un chant. Mais Lucas a eu de graves difficultés au niveau de sa santé qui ne leur ont pas permis finalement de réaliser ce projet de son vivant. Et quelques jours avant la disparition de Lucas, Sébastien Korn lui a promis de composer un chant, mais lui a dit « Mais propose-moi un thème, de quoi veux-tu parler ?» Et Lucas Lafont-Rivard lui a dit « Écoute, j'aimerais que tu écrives un chant sur la grandeur de Dieu. » Et il a fallu près de 4 ans à Sébastien Korn pour tenir cette promesse, peut-être parce qu'il voulait tellement composer quelque chose de juste, qui fasse honneur à son ami Lucas, qui était un amoureux des mots, bref. Il voulait un chant abouti, consistant à la fois. Et en tant que conducteur de louanges, que compositeur, c'est vrai que son propos n'est pas juste de composer un chant qui marche bien, qui sonne sympa. Son propos, c'est toujours que ses chants soient une inspiration pour les gens et un accompagnement pour leur vie chrétienne. Et c'est une collaboration de Sébastien Korn avec Samuel Olivier qui a donné naissance cette année à ce chant. Ils ont beaucoup échangé, notamment sur leurs compositions respectives, sur leur vie de compositeur et leur difficulté à trouver parfois les mots justes pour décrire Dieu. Et ce qui est revenu, c'est que parfois on pense qu'on connaît Dieu, qu'on en a déterminé les contours. Et puis quelque chose se passe et on découvre alors qu'on avait juste saisi une petite couleur de ce Dieu qui reste finalement un mystère pour l'être humain. C'est tout le paradoxe de notre relation avec Dieu. Un Dieu proche, et c'est super de pouvoir le rencontrer, mais pour autant, Dieu n'est pas familier, un Dieu puissant, mais qui ne se veut pas éloigner parce qu'il reste un Dieu de relation. L'orchestration de ce chant a été faite par Stéphanie Hamelin. C'est d'ailleurs inédit dans le domaine du chant de louange francophone, en tous les cas, d'avoir une orchestration aussi riche. Et c'est un travail phénoménal ici qui est engagé avec près de 170 pistes, 170 pistes d'orchestre. Et ces instruments multiples, vous allez l'entendre, donnent beaucoup plus d'ampleur au chant et c'en est saisissant. Ce chant « J'essayerai encore » que nous allons écouter dans quelques instants exprime notre incapacité à trouver les mots justes pour décrire ce Dieu qui dépasse notre entendement, nos mots, nos descriptions. Et pourtant, notre amour pour lui dépasse ce constat et nous invite à essayer encore. Seigneur, tu es le Dieu tout-puissant, le maître de l'univers. Quand on est face à l'infiniment grand, l'infiniment petit que tu as créé, on peut se sentir tout petit. Et pourtant, tu es avant tout un Dieu qui cherche du lien avec nous. Tu nous aimes, tu veux créer avec nous une relation comme tu l'as fait avec Zachée. Merci Seigneur pour l'intérêt que tu nous portes. Merci parce que tu te soucies de notre vie, des enjeux de notre quotidien. Parce que tu te réjouis de nos réussites aussi. Parce que tu nous soutiens dans les difficultés. La Bible nous dit que tu nous connais parfaitement jusqu'au nombre des cheveux que nous avons sur la tête. Alors merci parce que tu es un Dieu grand et en même temps tu es accessible. Tu viens aujourd'hui encore à notre rencontre et on veut répondre oui. Oui à une relation avec toi. Oui pour une relation durable. Oui pour t'inclure davantage dans notre vie. On veut accepter cette rencontre et soigner ce lien avec toi, Seigneur. Alors merci, viens faire ta place dans notre vie. Dans le nom de Jésus. Amen.
Amen.
Amen. Cette semaine, dans cette rubrique « Action pour la semaine », je t'invite à créer un espace dédié à la rencontre avec Jésus. J'ai parfois du mal à m'imaginer, comme ce Zachée, que ce Dieu si grand, si immense, veuille nouer un lien fort et intime avec moi. Jésus est venu sur terre pour me rencontrer, pour te rencontrer, pour te dire qu'il veut se lier à toi. À l'image de Alain Auderset, qui avait son rendez-vous en forêt, cette semaine, je t'invite, dans un premier temps, à trouver ta forêt. Un endroit où tu te sens bien. Ça peut être ta voiture, ton jardin, ta chambre, enfin, peu importe. Là où tu te sens bien. Et quand tu l'auras trouvé, je t'invite à y dédier 5 minutes pour créer un espace entre toi et Jésus. Pendant ces 5 minutes, tourne-toi vers lui, dialogue avec lui sur des réflexions qui te questionnent, prends le temps de prier pour quelqu'un à qui tu n'as pas trop pensé ces derniers temps. Essaye de te rappeler des versets de la Bible enfouis dans ta mémoire ou fais tout simplement silence. Mets ton téléphone sur mode avion, ne pense pas à ce qu'il va se passer dans 5 minutes et 1 seconde. Que ce soit un moment de rencontre entre toi et lui. Laisse-toi surprendre. 5 minutes, ça passe vite. Savoure chaque seconde. Renouvelle-le chaque jour pendant une semaine. Bonne rencontre et belle semaine.
Je suis heureuse que tu aies pu être présent pour ce temps de culte avec nous aujourd'hui et je t'invite à nous retrouver samedi prochain pour un prochain culte sur le thème de l'amour de Dieu. Je remercie celles et ceux qui ont participé à ce moment. Merci Jérémy pour ton partage autour de ce Dieu de la rencontre. Je remercie aussi Amandine, Brian. Cher auditeur, je te souhaite à toi aussi une semaine bénie et je te donne rendez-vous la semaine prochaine et dans ce laps de temps, bon temps dans ta forêt.
C'était le culte espoir. Une heure de culte hebdomadaire préparée par Amandine, Marina, Mildred et leur équipe.